Pas de PowerPoint cet après-midi. J'espère être pas trop longtemps. Christian m'a dit 20 minutes, mon père m'a dit au moins 1 heure. Christian a dit qu'il a plus d'autorité que mon père. Nous avons parlé d'Habacuc, de la vie de laquelle nous ne connaissons pas vraiment grand-chose. Nous avons ce petit livre et puis c'est tout. Et nous avons vu sa vie de foi. Et ce que j'aimerais bien vous encourager à faire, c'est de rentrer, de relire, de réfléchir, de prendre des notes vous-même. C'est en relisant ces chapitres, en essayant de voir où il y a des idées qui reviennent, que vous allez petit à petit pouvoir faire un ami de cet homme. Il y a probablement des chapitres dans la Bible qui semblent être le vôtre. Et vous avez connu, vous avez étudié tant ce chapitre que vraiment ça vous appartient. Eh bien, vous pouvez faire ça avec un petit livre comme Habacuc. Vous le relisez. On ne peut pas étudier toute la Bible au même temps et de la même profondeur. Mais c'est bien de choisir et puis de passer du temps avec quelqu'un pour que leur témoignage puisse avoir un effet sur nous. C'est un peu ce que j'ai fait en préparant cette retraite. Je relisais chaque jour la prophétie. Il n'y a que 3 chapitres. Et je vous encourage de le faire. Il y a un petit livre qui s'appelle De l'angoisse à la foi. Et c'est écrit par Martin Lloyd-Jones. Et c'est, j'imagine, on peut le commander à la Maison de la Bible. Et c'est pas très grand, mais c'est sur le livre d'Habacuc. Et si vous avez envie d'approfondir un peu votre connaissance de ce livre, je vous encourage à l'acheter et à le lire. C'est un très bon livre. Et j'ai beaucoup appris moi-même. Je l'ai lu il y a quelques années avec un frère dans l'église. Alors, en étudiant la vie d'Habacuc, vous avez vu que la foi n'enlève pas les problèmes, la foi n'enlève pas les angoisses et l'effroi, que la vie de la foi est comme un combat. Et je veux que vous ouvrez vos Bibles et nous allons lire 1 Timothée chapitre 6, donc dans le Nouveau Testament. 1 Timothée chapitre 6. Et à partir du verset 11, souvent notre appréciation d'une chose est déterminée par notre attente ou nos attentes. Si on attend beaucoup de quelqu'un ou de quelque chose, ben on termine souvent par la déception. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de la vie chrétienne? Il dit 1 Timothée 6, verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, et à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors, quelles sont les attentes que nous devons avoir de la vie chrétienne? Regardez le verset 12. Il dit, combat, le bon combat, de quoi? De la foi. Alors, c'est avec cela que je veux vous laisser. 3 idées tirées de ce verset. D'abord, c'est facile, la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne est un combat. Il dit combat, le bon combat. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut se livrer activement. La vie chrétienne n'est pas comme quand on monte dans un avion, on s'assoit et c'est l'avion qui nous amène. C'est un combat. Nous devons avancer. Chaque mètre est gagné par le combat. Et Philippiens 1, 27 à 30, je vous lis ces versets. Il dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit. » Vous savez le mot qui suit ?« Combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Là, il y a le combat pour la foi de l'Évangile. « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. » Donc, croire en lui, c'est une grâce. Hein? Il dit, il vous a été fait grâce de croire en lui, mais pas que ça. C'est quoi ce qui suit? Mais aussi de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. C'est un combat. Ce combat inclut la souffrance. Mais attention, la souffrance est un don de Dieu. Il vous a fait grâce de souffrir pour lui. Et puis, donc, si vous prenez des notes, ça c'était Philippiens 1, 27 à 30. Aussi, un autre verset à noter, c'est 1 Thessaloniciens 2. 1 et 2. Je vais vous lire ces versets, 1 Thessaloniciens 2, 1 et 2. « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des... » Quoi ? Bien des combats. Au beau milieu de bien des combats. Et puis quand Paul arrive à la fin de sa vie, de Timothée 4, verset 7, qu'est-ce qu'il dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé... Qu'est-ce qu'il a gardé? La foi. Vous voyez ce lien entre le combat et la foi, le combat pour la foi, le combat de la foi, le bon combat, j'ai gardé la foi. Et Hébreux 12, 1 et 2, vous connaissez, j'imagine, ces versets. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. J'ai dit ce matin que un vrai chrétien n'arrête jamais de croire. Si on dit on ne peut pas perdre son salut, c'est la même chose que de dire on ne peut pas perdre sa foi. Parce que la foi et le salut sont intimement liés. Un vrai chrétien ne peut pas perdre sa foi. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Donc c'est son œuvre en nous. On n'a pas besoin de se dire, mais est-ce que je vais pouvoir garder la foi demain, après-demain, peut-être je vais oublier, je vais lâcher. Non, il y a cette confiance que la Bible nous donne, que si Dieu a commencé en nous une bonne œuvre de foi, il l'accomplira. C'est lui qui garde notre foi. Et puis de Timothée 2, verset 4, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, la vie chrétienne est un combat. Deuxièmement, de ce même verset, la vie chrétienne est un combat de la foi. Je vous dis, c'est simple. Il faut y réfléchir. C'est un combat de la foi. Il dit combat, le bon combat de la foi. On ne va pas le lire, mais vous savez, en Éphésiens chapitre 6, il y a l'image d'un soldat qui est armé, qui a toutes ses armes pour le combat, parce que nous luttons, il dit, contre les puissances des ténèbres. Et dans cette lutte, il vous faut un bouclier pour vous protéger de l'ennemi. Et ce bouclier s'appelle le bouclier de la foi. C'est une arme. C'est avec cela que nous luttons. Le combat spirituel, un combat spirituel est déterminé par les armes que nous utilisons. On peut combattre d'une manière charnelle. Même dans la vie spirituelle. Mais si on veut combattre d'une manière spirituelle, il faut utiliser les armes spirituelles, l'épée de la parole et le bouclier de la foi. C'est avec la foi que nous nous protégeons. Et si nous nous sentons vulnérables, on peut prier avec les apôtres, « Seigneur, augmente notre foi. » Et la foi, comment travailler notre foi? La Bible dit que la foi vient de quelque part. Elle vient de ce qu'on entend, et pas à la radio, hein, pas à la télé. Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend qui va nous donner la foi vient de la parole de Dieu. Si nous nous détachons de la parole de Dieu, c'est sûr et certain, mes amis, que notre foi va diminuer. On ne peut pas augmenter notre foi sans un lien intime avec la parole de Dieu. Et puis, on ne va pas le dire non plus, mais Hébreux 11. Il y a tous ces personnages de l'histoire du peuple de Dieu. Et quel est le lien qui lie tous ces personnages ensemble? C'est la foi. Il y a toute une liste, hein? Abel, il y a Abraham, il y a Moïse, mais qui est la première personne mentionnée dans ce chapitre? Est-ce que vous savez? Non? Avant Abel. Hébreux chapitre 11. Vous pouvez me tester là-dessus. C'est qui est la première personne mentionnée dans ce chapitre qui a la foi? Ah non, c'est pas Abel. Eh non, c'est pas Abraham. Ah, vous nous en êtes là longtemps, hein, si vous ne trouvez pas la bonne réponse. Avant Abel. C'est même pas Enoch. Hébreux 11. C'est pas Noé. Quelqu'un l'a dit ici. C'est nous. C'est nous. Voilà. Par la foi, nous croyons. C'est impressionnant quand même, non, de lire ce chapitre. Et nous sommes associés avec toutes ces personnes. On pense à Abel, on pense à Abraham. Mais en fait, Abraham est venu à Dieu par la foi. Et c'est par la foi aussi que nous croyons que Dieu a créé. Donc, nous avons le même accès à Dieu qu'ont eu Abraham, Isaac, Jacob, les apôtres. Enfin, tous ceux qui font partie de la famille de Dieu. Nous sommes inclus là-dedans. Et la foi, on se dit, mais je ne pourrais pas être comme Abraham. Mais pour avoir la foi, Jésus dit, il ne faut pas devenir comme Abraham, il faut devenir comme quoi? Un enfant. Tout le monde peut avoir une très grande foi même en Christ. Et en Dieu. Nous pouvons tous exercer la foi, parce que la foi n'est pas une œuvre. La foi a été comparée, j'aime bien, à une paille qu'on prend pour boire une boisson. La paille en elle-même n'a pas trop de valeur. Et ça dépend dans quel verre on va mettre la paille, de quel goût on va sentir dans la bouche, n'est-ce pas ? Et en Jérémie, je crois que c'est vers chapitre 9, il dit « Maudits sont ceux qui croient ». Et quelques versets plus tard, il dit « Bénis sont ceux qui croient ». Et nous voyons donc que ce n'est pas la foi qui sauve. Parce que si vous lisez le reste du verset, « Maudits sont ceux qui croient en l'homme, bénis sont ceux qui croient en Dieu ». C'est l'objet de notre foi qui nous sauve. Si notre confiance est en Dieu, nous sommes sauvés. Si notre confiance, comme cette paille, est dans une autre boisson, nous-mêmes ou le monde ou quelqu'un d'autre, nous sommes maudits. Donc rappelons-nous que ce n'est pas notre foi qui nous sauve, ce n'est pas l'intensité de la foi qui sauve, ce qui est l'idée commune dans le monde. Tout ce qu'il faut faire, c'est avoir la foi. C'est, tu vas entendre les musulmans qui vont dire ça, tout le monde dit ça, tant qu'on est des gens de foi. Mais selon la Bible, la foi peut nous maudire si elle n'est pas en Jésus-Christ. C'est l'objet de cette foi. Et si Christ est l'objet, combien de foi, quelle quantité de foi faut-il? Selon la Bible. Quelle taille faut-il? Voilà, il faut, elle peut être comme un petit grain de sénévé. Mais si la paille est placée en Christ, eh bien nous sommes sauvés. Donc c'est un combat de la foi. C'est Luc 17, 5, où les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Luc 17, 5. Et ça pourrait être une prière que nous prions régulièrement à Dieu, augmente-nous la foi. Alors donc, la vie chrétienne est un combat, la vie chrétienne est un combat de la foi. Et quel est l'autre adjectif là qu'il faut ne pas oublier dans ce verset? La vie chrétienne est quel type de combat? Combat le bon combat. C'est un bon combat. Alors, on met pas toujours ces deux mots ensemble. Bon combat. Je pense que c'est presque des choses opposées. Pour nous, le combat, ce qui est bon, c'est le repos, c'est la retraite. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça une retraite. Si on disait venez au combat, il y aurait encore moins de monde, j'imagine. C'est la retraite, on veut. Mais c'est un bon combat. La retraite, c'est au ciel, hein? Ça viendra. Mais ici sur terre, c'est un bon combat. Pourquoi est-ce un bon combat? C'est un bon combat, selon la Bible, parce que la fin nous est garantie. C'est ça qui le rend bon. Parce que si c'est pour combattre pour rien, c'est la vanité. La Bible dit que c'est la vanité. Ça ne vaut rien. Mais c'est un bon combat parce qu'il y a la victoire qui nous est promise. Romains 8, 37 dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. J'aime bien ça, hein? Pas vainqueurs, mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je veux que vous trouviez 1 Jean 5. J'espère que cela vous encouragera. 1 Jean 5. Jean 5, je commence au premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Croire, c'est le verbe du mot foi. Hein? On n'a pas le même mot dans la forme du verbe. On ne peut pas dire foire. Faut dire croire. Mais quiconque croit ou a la foi que Jésus est le Messie, le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Dieu peut nous dire, si tu m'aimes, garde mes commandements. Parce que ton amour vers moi, Dieu peut nous dire, consiste à garder mes commandements. C'est-à-dire, si on ne garde pas ses commandements, que nous ne l'aimons pas. Et ces commandements ne sont pas pénibles. J'ai entendu une fois un témoignage d'une chrétienne. Je crois qu'elle avait grandi dans l'église. S'est mariée, elle avait une trentaine d'années. quand elle est venue au Seigneur. Et elle a dit dans son témoignage, pour la première fois, les commandements de Dieu ne me sont pas pénibles. Démontre un changement dans son cœur. Pourquoi ? Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc là, on est dans la victoire. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi ? C'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Vous avez une confiance, une foi en Jésus tant que Fils de Dieu. Ça, c'est la foi qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est pas nos œuvres, c'est pas notre force, c'est pas notre savoir-faire, c'est notre foi comme la foi d'un enfant. C'est ça qui triomphe du monde. Et Dieu a tellement façonné les choses pour que ça soit la foi qui est au monde une bêtise, mais qui est la victoire par laquelle nous vainquons le monde. Et pour reculer deux chapitres, 1 Jean 3, verset 2, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Voici une prophétie, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est la confiance que nous avons. Et quiconque a cette espérance en lui. L'espérance est très liée à la foi. Hein. Avoir une espérance, d'espérer, c'est avoir la foi. Vous avez cette foi en vous que un jour vous serez comme Christ. Eh bien, celui-là se purifie tout naturellement, comme lui-même est pur. Donc c'est un combat que si vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas perdre. Vous ne pouvez pas perdre. Et je parlais ce matin avec quelqu'un de Jonas. Et Jonas s'est tourné contre le Seigneur, un peu comme le témoignage qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Il a dit non, je ne veux plus obéir, je pars dans l'autre direction. Et puis, vous savez, la tempête arrive et il dit, jetez-moi par-dessus, bord, je vais mourir, je vais me suicider et la mer sera tranquille pour vous. C'est-à-dire, il préférait mourir que d'obéir. Parfois, on a ce sentiment, hein, on préfère mourir qu'obéir à Dieu. Et est-ce qu'il a réussi à se suicider ? Oui ou non ? Non, Dieu avait une surprise pour lui. Il n'a même pas pu se tuer. Il n'a même pas pu le faire. Ça, c'est la puissance de Dieu qui nous garde et qui garde aussi notre foi. Celui qui vaincra, Apocalypse 21:7 nous dit, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc c'est par la foi que nous allons vaincre, mais ayez cette confiance que votre foi ne dépend pas de votre force. Si vous êtes en Christ, il va nourrir cette foi. Il va vous garder, il va garder cette foi, il va préserver cette foi. Et c'est ça qui nous donne l'assurance que une fois que nous avons cru, toujours nous croirons. Donc, que Dieu vous encourage par ses pensées et qu'il fasse que chacun de nous puisse augmenter. Dans